bonsoir à tous et bienvenue sur Radio G 101.5 FM. Vous écoutez Indie Stories et nous sommes ensemble pour une petite heure, pour une plongée dans l'histoire du rock indépendant, alternatif, underground, quelle que soit l'appellation que vous préférez. Dans Indie Stories, on évoque les sorties du mois en cours depuis 50 ans, en remontant le temps de 5 ans en 5 ans jusqu'à aujourd'hui, quand c'est possible. Et dans Indie Stories, on n'est pas sectaire, on parle de tous les courants musicaux, du punk à la Britpop, du post-punk au shoegaze, du grunge à l'électro, du rock gothique au trip-hop, bref, il y en a pour tous les goûts. On débute cette émission consacrée à la deuxième partie du mois de février, avec février 1975 et un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Peter Hamill. Peter a fondé en 1967 le groupe Van der Graaf Generator, mais en 1979 il a commencé à faire des albums solo, même s'il joue avec ses potes de Van der Graaf Generator. Et en 1975, février 75, c'est déjà son cinquième album solo, avec lequel, un peu comme Bowie, hein, il va s'inventer un personnage qu'il nomme Ricky Nadir, d'où le titre de l'album Nadir's Big Chance. Alors c'est un album assez stupéfiant, hein, très avant-gardiste, et pas étonnamment, il est considéré comme un précurseur du punk rock en fait, hein. D'ailleurs même John Lydon des Sex Pistols l'adore. Donc c'est un mélange de garage, de proto-punk, de ce qu'on a pu appeler aussi l'art rock. C'est bourré d'idées, bourré de feeling. On va écouter Nadir's Big Chance, le titre éponyme, comme on dit, qui donne son nom à l'album. Album que je vous invite fortement à découvrir ou redécouvrir, hein, pour fêter dignement ses 50 ans. I'm in hanging around. de 5 ans. Le punk a déjà quasiment disparu. Et ce qui intéresse les jeunes musiciens en ce mois de février 1980, ce sont les synthétiseurs qui viennent d'arriver sur le marché, qui sont très abordables et qui permettent une approche très expérimentale de la musique. Alors d'un côté, on a le post-punk et de l'autre, on va avoir ce qu'on va appeler les nouveaux romantiques, qu'on appelle plutôt aujourd'hui de la synth-pop, même si c'est assez dur à prononcer. Il s'agit du premier album d'un duo. Ils ont commencé à 4 pour leur premier single, et puis ils ont été signés, entre guillemets, car ils n'avaient aucun contrat, hein, avec le fameux label Factory, label de Joy Division. Joy Division, dont ils ont d'ailleurs fait plusieurs fois la première partie. Le groupe s'appelle Orchestral Manoeuvre in the Dark, OMD pour les intimes. Alors, leur album ne sortira jamais sur Factory, même si la pochette, elle est signée Peter Saville, hein, le mythique designer du label. L'album n'a pas de nom, il s'appelle Orchestral Manoeuvre in the Dark, il contient 3 singles et ce sera tout de suite un gros succès pour OMD, même s'ils ne seront pas classés dans les charts, en tout cas avec ce disque. On va écouter le tout premier single du groupe qui s'appelle Electricity, qui est archi connu, hein, qui a été composé alors qu'ils étaient 4, et puis qui verra sortir plein de versions différentes. On écoute celle de l'album Electricity de Orchestral Manoeuvre in the Dark, février 1980. On reste en février 1981, hein, sans doute l'une des années les plus créatives en matière de rock indé, avec un groupe canadien cette fois-ci qui vient de Toronto et qui compte deux filles parmi leurs membres, deux filles qui s'appellent toutes les deux Martha. Et c'est pour ça que sans doute que le groupe s'appelle Martha and the Muffins. Le groupe, en ce mois de février, sort son tout premier album, accompagné d'un tube absolument énormissime, hein, qui va les rendre direct célèbres. Alors c'est une... on est encore dans une espèce de new wave avec du saxophone, hein. Je sais que pas mal de gens trouvent ça rédhibitoire, mais c'est vrai que c'est un peu un instrument mal aimé, hein, surtout dans les années 80. Bref... le single de cet album s'appelle Echo Beach. Il va marquer beaucoup de monde, hein. Il est assez représentatif du début des années 80. C'est à la fois dansant, hargneux, sombre. C'est directement hérité du punk, mais un peu plus intimiste, plus pop. Martha and the Muffins, après ce premier album qui s'appelle Metro Music, ne retrouvera jamais le succès. D'ailleurs, 2 ans plus tard, après 2 autres albums, ils ne seront plus que 2. Et ils prendront le nom de M plus M. Ne pas confondre avec les M&M's, évidemment. Ils auront quand même une carrière discrète, mais assez longue. En attendant, on écoute ce morceau épique, Echo Beach, de Martha and the Muffins, sur Metro Music, février 80. Radio G 101.5 FM. Nous voici maintenant en février 1985. Là aussi, l'époque a passé, la New Wave est devenue un mouvement assez différent de celui des origines. Et parmi eux, il y a un groupe un petit peu maudit, dont les disques sont à l'époque difficilement trouvables, en tout cas en France, mais qui a un bouche à oreille assez incroyable. Le groupe s'appelle The Sound, et il doit surtout à son chanteur Adrian Borland, qui a un chant particulièrement enfiévré, tout comme la musique, qui est assez nerveuse au départ, mais surtout complètement désespérée. Bref, ils ne sont pas gothiques, même s'ils peuvent avoir des accointances au départ, mais les gothiques les adorent. Ils viennent de Londres, ils se sont formés en 79, le premier album est sorti en 1980, le deuxième en 1981, c'est leur chef-d'œuvre absolu. Il y en aura un troisième en 82, et puis silence radio jusqu'à donc ce mois de février 1985. Avec quand même un mini-album l'année précédente. Le groupe a changé de label et aussi de musique. C'est un peu plus abordable, peut-être une musique un peu moins puissante, avec un petit défaut qu'ont eu pas mal de groupes New Wave, qui sont peut-être pris un peu trop sérieux, c'est un peu péjoratif ce que je dis, qui ont voulu faire quelque chose d'un peu plus poétique, qui se sont lamentés d'une façon peut-être un peu trop marquée. L'album est d'ailleurs assez moyen, même s'il y a des très bons titres, comme celui qu'on va écouter. Il faut dire que Adrian Borland ne va pas bien non plus, ça va empirer en tout cas beaucoup jusqu'à son suicide malheureusement en 1999. Et puis le groupe de toute façon il s'est séparé en 88, faute de manque de succès, de malchance, trop de problèmes. Mais ça reste aujourd'hui un groupe assez unique et un groupe phare des années 80. On écoute Under You de The Sound sur cet album qui s'appelle Heads and Hearts. We'll be right back. Direction le mois de février 1990, 5 ans plus tard, avec là encore un changement d'époque complet. Le groupe qu'on va écouter est, selon moi, l'un des plus grands groupes de grunge, et je pèse mes mots, hein. Pour moi, ils sont quasiment aussi bons que Nirvana. Ils s'appellent Tad, T-A-D, comme le prénom du chanteur, mais évidemment, la grosse différence d'avec Nirvana, avec qui ils ont commencé, hein, avec qui ils sont potes, hein. Ils ont d'ailleurs fait ensemble la fameuse tournée de 1989 en Europe, hein, où ils sont passés en France pour la première fois. La différence, donc, c'est que si Kurt Cobain est un joli blond très sexy qui plaît aux filles, Tad Doyle, le chanteur de Tad, est obèse, il est barbu, et avec ses potes, ils n'hésitent pas à mettre en couverture de leurs albums des tracteurs ou de poser avec des tronçonneuses sur les photos. Bref, l'image est forte, mais pas très sexy, et ça rebute sans doute pas mal de gens. Alors il y a aussi le chant de Tad, hein, qui a tendance à hurler un petit peu, mais c'est pas très gênant parce que les mélodies sont vraiment du niveau de celles de Nirvana, j'insiste, il y a vraiment une force incroyable dans chacun de leur titre, donc celui qu'on va écouter d'ailleurs, hein. Et à ce moment-là, c'est donc un mini-album, 6 titres, qu'on considère un peu comme un album aussi, leur deuxième sortie après un premier album. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures de Tad Doyle aussi, puis de Kurt Danielson, le bassiste que j'ai un peu connu, qui est aussi le deuxième Kurt de Seattle, hein, que tout le monde connaît là-bas. Tad feront encore 3 albums absolument parfaits avant de se séparer en 1996. On écoute un classique de Tad qui s'appelle High on the Hog sur cet album ou mini-album qui s'appelle Salt Lick, février 1990. Bobine de 5 ans, on arrive en février 1995 avec un artiste qui entame une carrière solo. C'est monsieur Tricky qui a quitté le groupe de trip-hop Massive Attack un petit peu avant. Massive Attack, c'était du trip-hop, oui, avec pas mal de soul music. Mais après le départ de Tricky, Massive Attack, tout comme Tricky d'ailleurs, vont continuer à faire du trip-hop, mais en délaissant complètement le côté soul. Et ça va même devenir assez sombre et assez plombé, hein, pour les deux d'ailleurs. Le premier album de Tricky est franchement un chef-d'œuvre. Hein. Il s'appelle Maxine Quay. Maxine Quay, c'est un raccourci du nom de la mère de Tricky qui s'était suicidée quand il avait 4 ans. L'album va se vendre en 100 000 exemplaires le premier mois de sa sortie. Aujourd'hui, il en est à 500 000, un demi-million quand même, c'est pas mal. Le disque sera donc troisième des charts anglais, du trip-hop avec donc une bonne dose de rock. Et sur ce titre et quelques autres, la superbe voix de la petite amie de Tricky à l'époque qui s'appelle Martina Topley Bird. Un disque sombre, vénéneux, assez souterrain, assez rampant, difficile à décrire. Un chef-d'œuvre, allez. Il y a plusieurs singles énormes et éternels sur ce disque. On va écouter le quatrième, peut-être un peu moins trip-hop que les autres, qui sera classé 28e des charts anglais, qui s'appelle Black Steel. Un grand moment de cette année 1995. Black Steel sur Maxine Quay de Tricky.
I got a letter from the government the other day. Opened it and read it. It said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, 'cause I never did. I wasn't with her, but just that very minute it occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up, but the thought was thought before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They do the law on you. They criticize me for some time.
Radio G 101.5 FM. On reste reste en 1995 avec un groupe de New York qui s'appelle Quicksand, qui est un groupe de post-hardcore. Hein. Le post-hardcore, c'est un mélange de plein de genres hérités du punk, du post-punk, du hardcore. Ils se sont formés en 1990 et leur premier album en 93 est un must du genre. Ils ont d'ailleurs plus ou moins inventé avec Fugazi ce qu'on va appeler plus tard la musique emo. Groupe brillant, pas très connu malheureusement, qui a jamais eu le succès mérité, c'est vraiment dommage. Ici c'est leur deuxième album qui est presque aussi bien que le premier. Le disque s'appelle Manic Compression. Le groupe va se séparer après celui-ci, mais ils se sont reformés pour deux autres albums aussi bien il y a tout juste 3 ou 4 ans. Donc ça fait 4 albums à leur compteur et franchement, tous géniaux. On va écouter Thorn in My Side de Quicksand sur ce deuxième album, donc Manic Compression, février 95. Allez hop, février 2000, nous voici avec un autre groupe de New York, complètement cinglé. C'est Mindless Self-Indulgence. Le nom du groupe vient du nom d'un album que le chanteur Jimmy Urine avait fait avec son frère. Puis ils ont changé, ils ont pris le nom de l'album pour faire un nom de groupe. Là, c'est un vrai groupe, hein, le groupe de Jimmy Urine. Un mélange très très bizarre entre hip-hop, punk, rock alternatif, électronica, techno, indus. Et surtout, c'est bourré de samples dans tous les sens. On peut même jouer à deviner qu'est-ce qui a été samplé sur tous ces morceaux, c'est assez rigolo. Sur ce titre aussi, sample bien connu, hein, l'intro devrait vous parler. Allez, je vends la mèche, c'est l'intro de Happy House, un célèbre titre de Siouxsie and the Banshees. Le groupe a sorti un premier album l'année précédente, mais ici c'est le meilleur album de leur carrière, le deuxième. Il y a 30 morceaux qui sont tous classés par ordre alphabétique. Franchement, c'est jouissif, hein, de la vraie folie à l'état pur. Ils vont en faire encore 3 après ça. À noter la pochette avec un dessin d'une jeune fille en Frankenstein, c'est très joli. L'album s'appelle d'ailleurs Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy. Le morceau qu'on écoute s'appelle Bitches de Mindless Self-Indulgence.
rock. Well, bitches love me cause they know that I can rhyme. Well, bitches love me cause they know that I can fuck. Well, bitches love me cause they know that I'm on time. I threw out the projects. I threw out the projects. I threw out the projects. They know that I can rock. And bitches love me cause they know that I can rhyme. And bitches love me cause they know that I can fuck. And bitches love me cause they know that I'm on time. I threw out the projects. I threw out the projects. I threw out the projects. Done. Done. And this is how it should be. Done. This is how it should be. Done. This style, style, style. Done.
Voici maintenant en février 2005, on va parler un petit peu électro avec le revival post-new wave, dirons-nous, de l'époque, hein, avec pas mal d'artistes qui ont redécouvert les plaisirs du synthétiseur et de Depeche Mode, entre autres. On écoute Mand Sims. Mand Sims, c'est un jeune homme qui est tout seul, qui est DJ, qui vient du Wisconsin et qui s'est installé en Allemagne, en fait. Alors, le monsieur a déjà une petite carrière, hein. Il a vu un précédent groupe qui s'appelait Citizen King, un groupe qui faisait une musique un peu comme Gorillaz, entre punk, hip-hop, dance music, qui a fait 4 albums. Ils ont même obtenu un hit au top 40, donc c'est un vrai musicien, hein. Mais là, en solo, c'est beaucoup moins fun. Très très new wave donc, hein. Il a fait un premier album en 2002, ici c'est le deuxième, une franche réussite. À noter que sur ce disque la présence de David J de Barraos qui joue la basse sur un morceau, mais c'est pas celui qu'on va écouter. Mand Sims fera un troisième album en 2009, très bien lui aussi. Avant de s'arrêter, on va écouter No Yellow Lines sur cet album qui s'appelle Wide Light de Mand Sims, février 2005. Indie Stories, Radio G 101.5 FM. Allez, on va zapper 2010 qui n'a rien donné d'intéressant. Nous voici en février 2015 avec le premier album d'un groupe de Bristol en Grande-Bretagne qui ne s'appelle pas Massive Attack mais qui s'appelle Spectra. Spectra, ce qui est d'ailleurs le même nom qu'un groupe canadien qui fait quant à lui du post-punk. Bon, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que les deux groupes existaient au même moment et sortaient des disques en même temps. Donc ici, c'est pas du post-punk, hein. Bon, on n'est pas très très loin. C'est plutôt de la noise avec 15 000 guitare saturée et des expérimentations sonores très marquées. Les gars sont manifestement très influencés par Sonic Youth ou Onwand, des groupes qui ont vraiment essayé plein de choses avec leur guitare. Et là, ils ont réussi à sortir un disque assez sidérant, j'avoue, d'une violence noirâtre, suffocante, assez impressionnante. Tout ça sans se prendre au sérieux. C'est ça qu'on aime aussi. Un petit chef-d'œuvre discret, donc, qui n'a pas eu beaucoup d'écho. C'est bien dommage. Depuis, Spectre a fait deux autres disques. Le dernier est même dans mon top 10 de l'année 2024. Vous savez donc à quoi vous en tenir. On écoute Mirror sur cet album qui s'appelle Dying, et ouais, de Spectre. Allez, passons à février 2020 maintenant, avec le groupe Bambara, un groupe qui a été formé par deux frères jumeaux. Ils viennent de Géorgie, aux États-Unis, et eux, ils font un mélange de post-punk, de noise, avec également ce qu'on a appelé le cowpunk. Le cowpunk, c'est un croisement entre punk, country, folk, blues, un petit peu des héritiers de Nick Cave, de Birthday Party, des Crows, qui marchent bien en ce moment. Bambara a sorti un premier album en 2006, en 2020 c'est déjà le quatrième. Album intéressant, hein, comme tout ce qu'ils ont fait, même si parfois c'est, je trouve ça un peu inégal. Mais bref, groupe bien intéressant, Bambara, avec cet album qui s'appelle Stray, et le morceau qu'on va écouter qui s'appelle Serafina, février 2020. L'émission est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude. On se retrouve dans 15 jours pour passer à l'actualité des mois de mars depuis un demi-siècle avec une nouvelle séquence quinquennale en espérant qu'il y aura quelque chose sur 1975 et sur 2025. Hein, les extrémités, c'est toujours difficile à trouver. C'était Indie Stories, la dernière émission de la semaine sur Radio G 101.5 FM ou en replay sur radio-g.fr et vous choisissez Indie Stories ensuite. Vous pouvez aussi venir me rendre visite sur mon blog indiestoriesetc.blogspot.com où j'approfondis un petit peu l'exploration des mois et des années qui passent. Le concept est juste un petit peu différent, c'est-à-dire que chaque podcast est consacré à un mois en particulier, avec entre 6 et 10 morceaux, dirons-nous. Et ça fait un petit moment que je fais ça, donc profitez-en, parce qu'il y a un sacré historique. Hein. Et tant qu'on y est, je fais également des podcasts pour le fanzine webzine Premo.fr qui existe depuis 1989, toute une époque où je parle cette fois-ci uniquement d'actualité. On va se quitter avec le deuxième album de Horse Girl, des jeunes filles très inspirées, qui ont un vrai talent, dans un genre noise lo-fi, un petit peu splineux. C'est vraiment très très bien, Horse Girl. Bonne soirée, bonne nuit, je vous laisse profiter de la nocturne rap et groove, et je vous dis à dans 15 jours. Ciao. Radio G 101.5 FM.
Radio G 101.5 FM.
Walking in the midnight sun. sont